paysan avec Pierre Jourde et Richard Millet. Chaque mort, écrivait Michelet, laisse un petit bien à sa mémoire et demande qu'on la soigne. Pour celui qui n'a pas d'amis, il faut que le magistrat y supplée. Par la loi, la justice est plus sûre que toutes nos tendresses oublieuses, nos larmes vite séchées. Cette magistrature, c'est l'histoire. Et les morts sont, pour dire comme le droit romain, ces miserabiles personae dont le magistrat doit se préoccuper. À lire Pays perdu de Pierre Jourde et Ma vie parmi les ombres de Richard Millet, j'ai pensé que cette magistrature devenue inassumable pour une histoire consciente de ses limites, incombait désormais au roman, ou à un certain type de roman. À la question, est-il bon qu'on se souvienne, ces deux écrivains en effet répondent comme Michelet, oui. Chaque âme parmi les choses vulgaires en a-t-elle, spéciale, individuelle, qui ne revient point à la même, et qu'il faudrait noter quand cette âme passe et s'en va au monde inconnu. Et s'ils se sont ainsi les gardiens des tombeaux, les témoins des défunts, les tuteurs et les protecteurs de morts, c'est que ces morts témoignent eux-mêmes d'un monde enseveli. Ce monde, quel est-il et comment le définiriez-vous, Pierre Jourde?
J'aurais un peu de mal à le définir parce que l'expérience que j'ai, en tout cas, du pays dont je parle, du pays, ça ne correspond pas à ce qui serait la terre et les morts comme enracinement, comme refuge de valeur. C'est plutôt l'expérience d'un nulle part, l'expérience de l'égarement. C'est quelque chose que j'ai compris petit à petit. Ça vient d'assez loin, puisque je fréquente ce pays intimement depuis que je suis né.
Il se trouve où ce pays perdu qu'on ne trouve pas dans vos livres, qu'on s'égare tout le temps quand on y va?
J'ai toujours du mal à le situer exactement. Dès que je nomme les endroits proches, personne ne connaît. Les monts du Cézallier, que personne ne connaît, qui sont des montagnes intermédiaires entre le Sancy et le Puy-de-Dôme. Ça ressemble un petit peu à l'Aubrac, c'est des montagnes entre 1000 et 1500 mètres, complètement. Enfin, une sorte de Mongolie, des herbages un peu déserts.
Et quelle est la ville la plus proche?
Mon Dieu. Saint-Flour à 55 km.
Donc la ville la plus proche est loin, quoi.
Ouais. Oui. Bah, d'ailleurs, personne là-bas ne va jamais à Paris, guerre à Clermont-Ferrand. On reste confiné entre soi. Dans un monde qui, c'est vrai, n'a pas énormément changé, en fait, à part quelques détails sur lesquels on pourra revenir, mais qui a conservé beaucoup de ses caractères.
Pourtant, vous dites il est dit dans la quatrième de couverture de votre livre, Pays perdu, que ce que l'on enterre dans ce roman, ce sont les derniers paysans. Il s'agit d'une histoire d'enterrement, on enterre une jeune fille, une jeune femme atteinte d'un cancer, mais à l'occasion de ces funérailles défile toute une série de personnages, ceux qui viennent et aussi ceux qui ne viennent pas, dont votre mémoire est pleine, et il s'agit bien quand même d'une sorte d'adieu au paysan.
Je n'ai pas compris tout de suite que c'était les derniers. J'ai longtemps cru que ces modes de vie, que ces gens, que leur civilité, que leur façon d'être était naturelle, existeraient toujours. Je me suis aperçu, il y a seulement 20 ans, qu'on était entré dans le temps. Qu'ils étaient entrés dans le temps. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont fait comprendre ça. Et depuis, c'est une réelle souffrance, effectivement, de les voir partir. De voir qu'ils sont les derniers. Que les gens qui travaillent là-bas, en fait, c'est la dernière génération.
Là, ils n'ont pas tenté de faire, ou c'est l'agriculture qui changera de nature?
Il y en aura peut-être un ou deux, mais sous une forme à peu près inévitable, là-bas, du jeune homme célibataire qui ne trouve pas à se marier parce que personne ne veut épouser cette solitude, personne ne veut épouser cette dureté. l'âpreté. C'est vrai que c'est une vie très dure.
Et vous-même, vous êtes né?
Oui, oui, tout à fait.
Vous êtes né là-bas?
Je ne suis pas né là-bas, mais mon père a été agriculteur là-bas. Mmh. Agriculteur parce qu'il n'était pas... C'est pas encore un vrai pays, c'est plus un vrai pays non plus. Mais en même temps, ce qui me frappe quand j'y vais, c'est que ces gens que l'on considérerait comme des gens, que l'on peut considérer, enfin, ce sont des remarques qu'on m'a faites comme grossiers, brutaux, ont aussi une vraie royauté. Mmh. Curieusement, par rapport à la typologie sociale classique, les paysans sont les rois aussi, mmh, aujourd'hui.
Et les rois destinés à disparaître, donc, oui, les derniers rois.
Ils ont les manières princières, dans l'accueil, mmh, dans l'hospitalité, dans la distance aussi.
Les rois sont Richard Millet. Les rois sont divertissants.
Oui, d'une certaine façon, pour reprendre un titre, oui, de Genon.
Oui.
J'ai juste souscrit absolument ce que dit Jourde. D'ailleurs, j'avais lu son livre, on avait échangé nos livres, et je lui avais écrit qu'il suffirait par moment que je change les noms, nous avons échangé les noms, les patronymes, pour retrouver à peu près la même histoire.
À peu près la même histoire. Mais alors, justement, où se situe sur la carte le monde dont vous venez et que vous voulez sauver de l'oubli?
J'ai la chance, si j'ose dire, qu'il se nomme Plateau de Mille Vaches, donc un nom un peu ridicule, qui est célèbre, mais célèbre. Qui veut dire en vérité, non pas qu'il y ait des milliers de vaches, mais qu'il y ait des centaines de sources. C'est une table granitique au sommet du Limousin, d'où partent les rivières, la Vézère, la Vienne, la Corrèze, la Creuse. Donc ça en fait quelque chose de plus reconnaissable immédiatement que le pays.
À quelle distance se trouveraient ces deux pays?
Centaines de kilomètres.
Non, mais
c'est en même temps l'infini, parce que
oui, c'est très difficile à parcourir à 700 kilomètres.
Pourquoi l'infini?
Et parce que au-delà de 30 kilomètres, ce n'est plus tout à fait le même patois, ce n'est plus tout à fait le même. Chez lui, c'est de la lauze. Les toits sont couverts de lauze, alors chez moi, c'est de l'ardoise. Vous voyez, donc ça change beaucoup. Oui, et puis c'est de la roche volcanique chez lui, tandis que chez moi, c'est du granit. Donc il y a une filiation de la roche noire. Et chez moi, c'est la situation de la roche dure, enfin, on pourrait dire les choses comme ça, qui façonne les gens, je me plais à le croire, de façon intéressante, en tout cas.
Oui, et puis vous dites, j'habitais Sion, c'est comme ça qu'il faut
Sion, prendre Sion, Sion.
Alors, il y a Sion et Sion, donc il y a les deux orthographes dans votre livre, puisque le premier chapitre s'intitule Sion avec un M, et le dernier, Sion avec un M. J'habitais Sion comme on n'habitera sans doute jamais plus nul territoire, avec cette connaissance d'un monde rural parfaitement délimité, sinon clos, dans lequel chaque chose était à sa place, chaque être issu d'une histoire connue de tous, ou bien comme moi, objet de légende, vivant et mourant dans une communauté à peine troublée par l'invasion du dehors, sinon par la radio, le téléphone, la télévision, les automobiles. Et encore portait-on sur tout cela un regard méfiant ou ironique, le reste du monde demeurant dans un lointain qui confinait à l'abstraction, etc. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous pouvez dire qu'il y avait l'infini entre ces deux pays,
bien sûr,
ce n'est plus le même. Et vous dites, j'habitais comme on n'habitera plus nulle part. C'est un mode d'habiter qui a lui-même disparu.
Oui, parce que c'était une communauté. Et ce sont de la communauté qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui, en tout cas dans les grandes villes. J'en ai fait l'expérience, et comme Pierre Jourde, il y avait ce sentiment de l'immortalité, et ça c'est probablement une naïveté enfantine, bien que nous fussions, pardon, la partie du scientif, dans une époque où les choses basculaient, c'est-à-dire la fin des années 60 et début des années 70. Je crois que c'est là que le paysan est devenu agriculteur et maintenant est en train de devenir, pour ceux qui restent, un technicien de l'agriculture.
Un fonctionnaire de l'agriculture. Parce que depuis 3 ou 4 ans, ce qui a changé aussi, c'est qu'il faut sans arrêt remplir des quantités de papier. Chaque bête étant étiquetée, repérée, ayant sa carte d'identité, il passe un temps fou.
Bien sûr.
Fonctionnaire et technicien.
Oui, dans les villes communes, Bruxelles.
Oui, c'est le destin de tous les métiers, semble-t-il.
Oui, mais il est vrai aussi, on peut le dire avant d'en revenir à vos livres, j'ai des questions précises à vous poser, qu'il y a eu une mutation qui a culminé dans les années 70, qui a commencé avant, des paysans considérés, des ruraux considérés comme archaïques et pire que ça au sortir de la guerre, la terre ne ment pas, etc., qui ont mis un point d'honneur à se moderniser, pour bien montrer qu'au fond, ils étaient partie prenante de la civilisation, et puis qu'ils avaient un rôle à jouer, plus de famine, que les gens mangent à leur faim, et là, Mais la mutation est allée jusqu'à faire de la profession d'agriculteur l'une des plus modernes de toutes, et jusqu'à installer le calcul, au sens des derniers des termes, donc la technique au cœur de l'agriculture, agri-technique, et non agriculture, si colérer, c'est prendre soin. La technique ne prend pas soin, elle façonne, elle manipule, et on le voit dans ce que sont devenus les porcheries, l'élevage en batterie, etc. Même les ateliers incroyablement informatisés de production du lait, et à ça s'ajoute en effet une bureaucratie particulièrement foisonnante, et donc effectivement technicien plus fonctionnaire. Mais
okay. Encore, alors, vous voulez préciser une chose, c'est de quel type d'agriculture il s'agissait. En Haute-Corrèze, c'est une toute petite structure, là, qui ferme avec 400 vaches, quelques porcs et quelques volailles. Je me souviens, par exemple, du premier élévateur à fumier, si je peux évoquer ce souvenir, que j'ai
eu. Parce que...
Un élévateur à fumier, moi qui ai, dans mon enfance, nettoyé des étables à la main, ça me paraissait quelque chose d'extravagant, de futuriste, vous voyez, il y avait le Spoutnik et il y avait l'élévateur à four à fumier. Donc, ces paysans se caractérisaient par le truc suivant, c'est que jusqu'au bout, en tout cas en Haute-Corrèze, jusqu'au bout, ils sont restés dans un système archaïque, c'est-à-dire du 19e siècle. Je prétends que, jour des mois, nous avons touché, nous avons vécu dans le 19e siècle, ouais. Jusqu'à peu près à aujourd'hui.
Tout à fait.
Et ça, c'est sidérant. C'est-à-dire que quand on lit l'affaire de Zola, il n'y a quasiment aucune différence. Vous voyez, donc, il y a des espèces de rétrécissements de perspectives temporelles qui sont sidérantes. Et aujourd'hui, que ce monde a disparu depuis une vingtaine d'années, ceux qui nous lisent nos enfants, nous lirons peut-être comme nous lisons Zola ou les paysans de Balzac.
Mmh. Ça, c'est vrai, il y a certainement beaucoup plus de choses qui ont changé. En 20 ans que depuis, après ce Moyen-Âge, pratiquement, il y a une chose qui m'avait pas frappé, enfin, j'étais pas conscient de l'écart à l'époque, je l'étais par la suite. C'est vrai, j'avais l'habitude de chaner, aussi, avec un char en bois, avec des bœufs attelés, ça jusqu'à l'âge de 12-13 ans, à peu près, ou 14 ans. Et je me souviens très bien de cette année 68 où j'étais là-bas, où on chanait, et le soir, on allait regarder à la télévision, les Américains débarquer sur la Lune. Avec un autre type de char.
Oui, mais alors, tout de même, quand j'ai eu l'idée de cette édition, j'ai vu ces deux livres paraître, j'avais entamé la lecture de celui de Richard Millet, je me suis procuré aussitôt le vôtre, et mon idée, c'est que quelque chose allait vous unir, souci de témoigner, mais aussi, disons, nostalgie. Alors, dans les deux livres, il y a une grande lucidité, la nostalgie ne cède jamais au kitsch, ni chez l'un, ni chez l'autre, qui fait, je crois, leur valeur littéraire, mais aussi leur force de vérité. Simplement, chez vous, Pierre Jourde, il me semble qu'il y a un contraste entre ce que dit la prière d'insérer et ce que j'ai lu. Ce que l'on enterre dans ce roman, ce sont les derniers paysans, c'est aussi la beauté dont on ne parvient jamais à faire son deuil. Et il y a... plus on avance dans ce roman, ce récit, plus on va vers l'informe. Et l'informe, c'est à la fin le monde indistinct de cette maison d'un cousin de votre frère qui motive ce voyage. Et il y a une sorte de leitmotiv constant qui est celui autour de l'alcool, autour de la saleté. C'est celui de la confusion des formes.
L'excrément, parce qu'on y est.
L'excrément, oui, il y a une image absolument extraordinaire sur la mer. C'est pour ça que le fumier était, si j'ose dire, bienvenu à Charmillen.
Je crains que ma conception de la beauté ne soit liée à ça. C'est-à-dire à quelque chose de. À la découverte de quelque chose de très violent, qui cesse d'avoir forme. Pourquoi, je crois que c'est ça pour moi la beauté. La beauté, elle est noire. La beauté, c'est. Lorsque tout à coup la forme cède et révèle effectivement une sorte de chaos intime qui n'appartient plus à l'objet beau, qui est au-delà de l'objet beau, qui relie à l'ensemble de l'univers. Et pour ça, on est obligé de perdre la forme. Je crois que c'est ce qui m'intéressait dans ces vieux pays, précisément, c'est pour ça que c'est pas vraiment de la nostalgie. Ce qui m'a retenu dans ce vieux pays, c'est le moment où il commençait à cesser d'être lui-même.
Et toujours ça là-bas, ce rapport entre la forme et l'informe. Entre la forme répétitive, structurée, des maisons, des pierres, des arbres, et cette espèce de chaos qui est toujours là. Qui est toujours là, dans les paysages, dans les bêtes, dans la violence du rapport au travail. C'est pas un monde facile, c'est pas un monde où forcément on aimerait vivre. C'est pour ça que je parlerai pas de nostalgie. Ce sont des gens qui peuvent être odieux, insupportables. Enfin, la campagne, le village, c'est aussi des gens qui épient, des ragots, des violences. Mais ce sont pas des gens, comment dire, d'abord ce sont pas des gens qui racontent des histoires. Je veux dire par là, c'est pas des gens à qui on peut en raconter. C'est des endroits où on peut à la fois, enfin, où il y a un vrai sens de la parole, de la plaisanterie, et en même temps un sens du silence. Et puis aussi, je crois que j'ai rarement vu un tel goût de la liberté, de l'indépendance. C'est pour ça que ça me fait mal de les voir fonctionnariser, parce que ils ont encore le sens de l'honneur, qui va être l'hospitalité. C'est un peu une espèce de brigand. C'est-à-dire que la contrebande, le brigandage, les coups de fourche aux gendarmes, aux vétérinaires, ça existe encore, parce qu'on veut sauvegarder son indépendance.
Ben quand même. Je reviens sur cette question de l'informe. D'abord, par quelques citations. Des réflexions incroyables, des réflexions qui sont autant de descriptions sur la saleté, sur ce que vous appelez la légende des maisons sales. Car il faut bien y boire dans ces maisons. Toute visite exige son canon de rouge, à la rigueur son café. Inutile de biaiser, le verre de sirop peut comporter plus de risques que le vin. On espère vaguement que l'alcool désinfectera un peu. Il y a ceux qui font passer le café dans de vieux bas, ceux qui le réchauffent dans une boîte de petits pois posée à même le feu. Dans une ferme, les tranchées du service étaient mises un jour des beautés, en effet, fabuleuses. Il devait s'agir de verres protocolaires que l'on sort rarement, réservés peut-être des invités de marque. Les araignées confiantes les avaient emmaillotées, le vin s'est versé sans autre précaution, et le chimel pinard creva une toile poussiéreuse. Mais ce n'est pas tout. Il y a un développement extraordinaire sur l'alcool. L'alcool qui tunifie les faces, cogne les épouses, ruine les exploitations, déforme les membres, ourdit les accidents, lui et lui seul. Ceux qui ont vendu leur âme ne sont plus que l'alcool, le corps provisoire et titubant de l'alcool. Ils travaillent au lent retour vers la confusion des formes, vers les créatures du chaos. Ils fabriquent des succès d'années de titans. Et en effet, et vous dites encore une fois, un peu plus loin, que tout dans la vieillesse et l'usure générale des choses, tout finit par se confondre, et que vous voyez, et que alors, tout finit par se confondre, mais c'est aussi la vie et la mort. Il y a cette visite incroyable. Il y a un mort, peut-être une veillée funéraire, une chapelle ardente, on va dans la chambre du mort, on ne le trouve plus, parce qu'il est englouti dans les chiffons qu'on ne jette
dans
pas, et dans les hardes et les chiffons, et enfin, cette maison de Joseph le cousin, quelle est-elle? C'est le dernier mot du livre, une concentration d'indistinct. Et ça m'a beaucoup frappé, pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'être, il y a deux manières de le définir, si je puis le dire philosophiquement, excusez-moi cette référence, mais l'être, ça peut être défini comme le donné, ou avec Heidegger comme le ça donne. Et c'est un peu ça qu'on aime, qu'on croit pouvoir aimer dans la nature. La présence du donné, de ce sur quoi l'homme n'a pas complètement mis sa marque, mais qui existe aussi hors de lui et sans lui. Et vous, l'être auquel vous nous donnez accès, c'est pas celui-là. C'est ce que Lévinas appelle l'imia, c'est-à-dire quelque chose effectivement d'indéterminé, d'informe, d'indistinct, qui existe, mais qui inspire une terreur sans nom, puisque précisément, il est l'innommable.
Bonjour. Je ne vous suivrai pas tout à fait sur le à propos de Heidegger, parce que je crois aussi que ça serait heideggerien de dire que l'être, on le saisit en chaque chose très particulière, à ce point qu'on n'atteint jamais, ce point presque asymptotique, où son extrême particularité se trouve en même temps niée par la non-particularité. Et c'est un peu ça, au fond, le chaos, c'est ce point vers lequel l'être tend à s'échapper à lui-même, ou en tout cas où l'étant tend à s'échapper à lui-même, et qui ouvre l'horizon de l'être.
Mm-hmm.
Alors ça a l'air extrêmement sérieux de placer le débat sur le sujet, mais je crois que vous avez touché le point juste. C'est la question.
Mm-hmm.
C'est la question. Cette représentation du chaos, c'est une espèce de recherche de ce que serait l'être dans cette chute.
Alors, il me semble que votre expérience est assez différente, cher Millet. que vous mettez, c'est quelque chose de très individualisé que vous mettez au jour ou à jour.
À la différence de dire chose, mon roman ne part pas d'un point de vue complètement contemporain. Il essaie de restituer, au fond, l'enfance à travers tout l'émerveillement, au fond, qu'elle a suscité. Mais néanmoins, par rapport à cette question du chaos, prenons-le dans son sens étymologique, l'entrouvert, si vous voulez, il me semble qu'à travers tout ce qu'il peut y avoir de noirceur, d'informe, on pourrait essayer de voir comment cette informe se structurait à travers des rites et des superstitions, la religion aussi, la politique, et surtout peut-être toucher au mythologique. Le rapport notamment aux bêtes, c'est quelque chose qui nous faisait atteindre au mythologique. Donc on touchait non seulement Didier de Mécène, mais Virgile, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le vois aujourd'hui.
Comment vous définiriez ce rapport aux bêtes?
C'est un rapport, à la fois magique, il y a un sens magique du rapport aux bêtes, et en même temps un rapport strictement utilitaire, en ceci qu'il s'agissait de prélever sur la communauté, des bêtes, ce dont on avait besoin pour vivre ou pour survivre.
Et ça allait quelquefois avec une certaine cruauté.
Avec une cruauté épouvantable,
enfin. Oui.
Mais tout ceci flottait, bien sûr, c'est le sens mythologique et le sens pratique, disons, c'est des choses qui tendaient à s'estomper parfois.
Et puis aussi, je crois que la part mythologique est très présente dans votre livre, précisément, c'est-à-dire comme quelque chose qui relève de la mise en ordre de ce chaos qu'on peut avoir parfois l'impression de toucher. Et vous en parlez notamment au moment où il est question de la mort de Marie, votre grand-tante qui vous a élevé, qui est morte, je crois, en 1959, qui a été mariée, et ça touche d'ailleurs, effectivement, il y a quelque chose de très ancien dans ce livre. Elle a été mariée juste avant la Grande Guerre, son mari est mort à la guerre, elle est devenue la veuve de ce mari, c'était folie. Donc c'était en quelque sorte la veuve folie, et elle a toujours refusé de se remarier. Il y avait là aussi une manière de témoigner pour elle, une sorte de fidélité obstinée, sacrificielle au disparu. Et puis ce qui dit, un monde disparaît avec elle, et ce monde, il était aussi fait d'un grand songe millénaire, c'est-à-dire un merveilleux savoir qui redoublait le monde d'une parole enchanté. Et cette parole enchantée, c'était toute une série de petites superstitions que les Lumières n'avaient pas encore abrogées. Alors pourquoi donner cette importance aux superstitions
Parce que c'était une manière de lire le monde et de s'en protéger, si vous voulez. La cérémonie, par exemple, selon laquelle on versait une goutte de cire sur les cornes des vaches, sur chaque ouverture, vous voyez, de cierge béni, toutes sortes de choses de ce genre. Je ne saurais pas les rappeler toutes, mais c'était un redoublement du savoir, disons, scolaire et du savoir religieux, qui n'était pas forcément en conflit avec ces deux savoirs, mais qui, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, me permet l'accès à l'écriture.
Ah oui?
Oui, parce que c'est à partir de ces petits détails que le souvenir se réveille, si vous voulez. Donc, alors, je suis parfois enclin à pratiquer de nouveau ces superstitions pour moi-même, de manière un peu dérisoire, si vous voulez, mais en même temps...
Pour déclencher la mémoire, peut-être.
Pour déclencher la mémoire, mais parfois même pour me protéger.
Ah oui.
Quand j'entends la chouette hurler, ululer le soir, en Corée, il m'arrive de me signer. Je ne peux pas en empêcher.
Là, une question dans votre général. Vous parlez du souvenir, il y a une force du témoignage dans vos deux livres, vous témoignez pour d'autres. Avec chez vous, Pierre Jaude, ces personnages qui sont tant de personnes et qui défilent à la fois ceux qui viennent à l'enterrement et ceux qui ne viennent pas. Donc, et pourquoi avoir intitulé ces livres romans? Est-ce que la part de la fiction y est importante, ou est-ce qu'à votre avis, il faut... Le roman est une forme qui doit accueillir cette volonté pour un sujet d'être témoin, cette assignation au témoignage par les morts.
Bon, d'abord, je vais continuer. Il y a un passage par la fiction qui est plus important dans le roman, pour le coup, de Richard Millier. Enfin, vous me direz si je me trompe. Hein. Moi, je récuserais carrément, en fait, l'intitulé roman.
Ah non, vous récusez votre quatrième de couverture.
Voilà.
Non, parce que c'est vrai.
C'est un récit aussi exact.
Voilà. Voilà. Et donc, c'est pas inscrit. Donc, je l'ai dit, il n'a pas voulu faire un roman. Puis, quand j'ai lu la première série,
il y a
que l'on en perd dans ce roman. Donc.
Il y a très peu de transposition. C'est-à-dire, il y a une composition
oui.
qui était nécessaire pour ne pas disperser le récit. De légères transpositions. Et puis, bon, certains des faits racontés, je les connais par témoignage, avec ce que ça peut impliquer de déformation. Mais pour 90% des faits, je les ai vus.
Est-ce que vous avez gardé les noms, par exemple?
Non, ça c'est pas possible.
Par souci de discrétion.
Oui, par souci de discrétion, d'abord, ce sont des gens auxquels je ne veux pas porter tort. Et puis, c'est un pays où on aime le secret. On ne se livre pas comme ça. On a encore ce goût de ce souci de la discrétion. Je suis très gêné par l'inflation actuelle de l'appellation roman pour n'importe quoi.
Donc vous n'avez pas y participé, mais ce que vous avez fait, c'est tout le contraire de n'importe quoi. C'est effectivement donner forme au chaos. Et peut-être que ça peut être une définition, disons, possible de la littérature. Mais justement, aujourd'hui, il semblerait que on ne veuille pas distinguer le littéraire du romanesque. Vous avez fait un travail littéraire, éminemment littéraire, chaque phrase atteste. Chaque phrase est une conquête sur le chaos et une restitution du chaos. Mais, en effet, pourquoi dire roman quand on pourrait dire simplement littérature?
Oui, tout à fait d'accord.
Alors, Richard Millier, vous, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi, alors, de faire un roman, d'écrire un roman? Quelle est la part de la fiction? Quelle est votre définition du roman quand vous écrivez un roman, quand vous appelez ce que vous écrivez un roman?
Disons qu'il y a 90% de choses vraies, avec, comme c'est toujours, des noms qui sont calqué, changé, pour les mêmes raisons, exactement pour les mêmes raisons. Enfin, depuis dans cette définition, il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, l'honneur, la question de l'honneur, chose aujourd'hui complètement perdue, voire réactionnaire, s'attacher avant tout à la pureté du nom. N'est-ce pas? Un nom sans tache était une des choses auxquelles on travaillait toute sa vie. Donc, il s'agit de ça. Maintenant, c'est effectivement une question de composition. Il se trouve que ce roman-là, comme la plupart de mes précédents, m'a été inspiré non pas par d'autres romans, c'est-à-dire que je n'ai pas puisé chez d'autres romanciers, mais j'ai surtout puisé dans la musique, notamment dans la musique symphonique, où je prends la plupart de mes exemples, ou en tout cas de mes forces, dirais-je. Et notamment chez un compositeur auquel je rends hommage dans ce roman, qui est Anton Bruckner, qui est avec Mahler, le dernier grand symphoniste qui a rassemblé au fond toutes les formes de la symphonie pour les porter jusqu'à leur éclatement, surtout au travers Mahler, bien sûr, mais et ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et très modestement, ce roman est en même temps, vous l'avez lu, une réflexion aussi sur ce qu'on appelle roman. C'est-à-dire, il y a toute cette question, le dispositif de narration, c'est-à-dire le narrateur qui raconte au fond ce monde pendant plusieurs nuits à sa très jeune maîtresse, qui est né 30 ans après lui sur les mêmes terres et qui ne sait plus rien, quasiment rien, ce dispositif-là est éminemment romanesque au fond. Tout ce qui est raconté est vrai, a été vécu.
Et en même temps, vous dites la musique a joué un plus grand rôle dans la gestation et la composition de ce roman que la littérature, et pourtant quand on vous lit, quand on lit ce roman ou d'autres, on ne peut pas s'empêcher de penser à Faulkner. D'ailleurs, je crois qu'il y a une épigraphe de Faulkner et de ce qu'il a fait de son comté au sud. Hein. Je pense que l'influence, ou en tout cas la rencontre, est réelle.
Donc, quand j'avais 15 ans, j'ai lu les Américains comme tout le monde, Stanley, qui a une génération perdue, je savais qu'il y a certains Faulkner qui avaient... Je me souviens, j'étais dans le village de Jean en Corrèze, j'aime, si vous préférez, c'est Jean Corrèze, et j'étais heureux d'un seul coup parce que je savais qu'un Américain avait parlé de paysans. Et donc, il était possible d'en parler. Je ne connaissais pas Jeannot, je ne connaissais pas les débats qu'il pouvait y avoir autour de la littérature de Héroïne et ces choses-là. L'école de Brise n'avait pas encore envahi le champ, n'avait pas labellisé, si vous voulez, le champ du Héroïne. Et donc, je me suis mis effectivement à lire, et bien sûr, il nous a appris énormément dans la technique, surtout Absalon Absalon.
Avouez qu'il est tout de même paradoxal d'aller chercher chez un écrivain américain, l'Amérique étant le laboratoire, comme chacun sait, de la modernité, l'Amérique étant le pays sans ancien régime, étant la démocratie en marche et en acte même, d'aller chercher donc chez un écrivain, chez un romancier américain, le droit, la possibilité de parler des paysans. C'est un paradoxe absolument extraordinaire.
C'est un paradoxe que je voudrais justement cultiver ou interroger de plus près, puisque le livre de Jourde comme le mien sont, est passible de... Alors, on pose beaucoup la question, est-ce que vous n'êtes pas passéiste, au fond, je ne sais pas si on vous l'a à propos de ce livre, je crois.
Pas encore, ça va venir, certainement.
Moi, c'est déjà venu, est-ce que vous n'êtes pas passéiste,
oui.
Est-ce que vous n'êtes pas dans la nostalgie de quelque chose, et on voit ce qui se profile au bout de ça, c'est-à-dire la Terre, au fond, la Terre qui ne ment pas, etc., etc.
Donc, réactionnaire, oui.
Voilà. Catégorique, en usage.
Parler des paysans du monde rural en France est assimilé à une entreprise réactionnaire.
Disons, ce reproche vous a déjà été adressé.
Ce reproche, bien sûr, a déjà été adressé. Moins avec ce livre-là, parce qu'il a un dispositif, disons, plus moderne ou moderniste, ou, pour mes précédents, oui, bien sûr.
Et
il n'est pas tendance, les paysans du village, pas du tout. Alors que les paysans de Genoux, qui sont en Provence, pays tendance, vous voyez.
Alors, vous me que vous suggérez une question à laquelle je n'ai absolument pas pensé, et que je vous pose à tous les deux. Les paysans du plateau de Mille Vaches ne sont pas tendance, mais José Bové est tendance. La Confédération paysanne est tendance. Depuis, d'ailleurs, qu'elle est devenue planétaire. Il y a une époque où elle disait des choses absolument passionnantes, elle ne l'était pas du tout. Mais alors, comment expliquer ce paradoxe? Je me souviens des années 80, où, effectivement, on détestait tranquillement tout ce qui était paysan. On peut même, et la terre et les morts, ça évoquait Barrès, Barrès, ça évoquait Pétain, bon, et c'était, il y avait un interdit qui frappait complètement ce monde-là. Aujourd'hui, il y a même ce paradoxe d'une France qui aime à se reconnaître dans son astérix, qui aime à vanter sa résistance et la résistance de ses fromages à l'invasion de la McDonaldisation. Alors là, il y a quelque chose qui mériterait peut-être d'être analysé. Les paysans, la disparition du monde paysan n'affecte plus personne. La nostalgie pour ce monde paraît ringarde, sinon rétrograde, et en même temps, l'homme, l'une des figures les plus charismatiques et les plus populaires de ce qui est tendance, de ce qui représente le progrès, de ce qui représente la gauche et l'extrême gauche, c'est comme on l'a vu au dernier forum social européen, José Bové. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Comment on peut s'arranger de cette contradiction?
Quoi qu'il en soit, l'histoire de la littérature montre que le départ entre les bons et les mauvais sujets, les sujets à traiter et les sujets à ne pas traiter, a toujours engendré des erreurs. Et en l'occurrence, je crois que dire que le paysan est un mauvais sujet à traiter est une erreur historique aussi.
Mm-hmm.
Parce que ce sont des gens qui existent. C'est effectivement une catégorie qui a été majoritaire, une catégorie sociale qui a été majoritaire en France jusqu'à maintenant, et nous saisissons le moment historique où il est en train de disparaître, il me semble que c'est le moment ou jamais d'en parler.
Et par rapport à ce que vous disiez dans les années 80, n'oubliez quand même pas le Larzac.
Oui, le Larzac. Il fallait commencer par là.
Quelle était l'idéologie du Larzac? C'est Volem Viur al Pais, n'est-ce pas? Le retour à la Terre. Il y avait là un retour à la Terre très curieux, d'ailleurs, de la part des gauchistes. À mon avis, beaucoup plus suspect que bien autre chose. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, le retour à la Terre? Je me suis souvent interrogé là-dessus. Qu'est-ce que c'était de l'histoire du Larzac? Au fond, est-ce que c'était une intrusion de la modernité négative, ou en tout cas d'un échec historique, sur un plateau, Larzac, ou est-ce que c'était pas autre chose? C'était pas un vieux fantasme qui trouvait à se réveiller de cette façon-là? Au fond, est-ce que José Bové n'est pas la caution, moderniste d'un vieux fantasme?
En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, on a l'impression que le monde paysan dont vous parlez, c'était une manière d'habiter Et une manière d'habiter, on connaît chaque mètre, on peut se repérer dans la nuit la plus noire, donc on est dans le chaos et on échappe au chaos par cela, mais c'est parce que, effectivement, ce monde est petit. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, avec la figure de José Bové, c'est que c'est une figure planétaire. Aussi altermondialiste soit-il, il est doté d'une onde d'ubiquité, il intervient sur tout et tout le temps.
Mais je suis pas sûr qu'on puisse un paysan
dans l'aéroport.
Si le mot est bien choisi.
Non, c'est une réconciliation de la paysannerie et des aéroports qui me semble aller à l'encontre du monde que vous nous faites toucher du doigt, en quelque sorte, alors même qu'il a disparu. Autrement dit, c'est une autre preuve de sa disparition. Mais alors, vous disiez quelque chose.
Non, parce que vous parlez de ce que vous dites de José Bové, vous faites penser que je crois que je suis venu à la littérature, je suis en train de découvrir avec vous en ce moment, je crois que je suis venu à la littérature par là, par ce pays, et précisément parce que c'est un pays où on ne parle pas, où on parle très peu, où l'on retient la parole. Et j'ai eu, je crois, ce sentiment que la parole en soi était obscène, que le fait de dire quelque chose était obscène, et que s'il y avait une tâche de la littérature, c'était d'essayer d'aller au-delà de cette obscénité, pour trouver des mots qui puissent ne plus être honteux de dire. Mmh. Et j'ai honte d'avoir écrit d'une certaine façon, parce que j'ai rompu le silence, et j'essaye de de transporter une espèce de silence quand même dans cette parole, une espèce de manière de ne pas dire.
Et donc cette thésure, comme on pourrait l'appeler chez moi, concernait surtout ce qui relevait du domaine affectif, c'est-à-dire notamment les histoires d'amour. On pouvait parler de la technicité des rapports sexuels, puisque les bêtes nous le montraient mieux que les professeurs d'éducation sexuelle. Mais en revanche, les peines de cœur étaient l'obscénité, enfin le dévoilement des peines de cœur était l'obscénité de l'obscénité. Donc, c'est effectivement le travail auquel je me suis livré à travers les femmes de ma famille, surtout ces trois femmes, entrer, par exemple, vous parlez du veuvage de cette femme, un grand temps qui a duré une cinquantaine d'années, je me suis toujours, moi, homme du XXIe siècle, maintenant, posé la question de savoir comment physiquement, psychologiquement, elle a pu survivre, chose dont on ne parlait jamais. Comment peut-on vivre
en elle n'a jamais fait aucune confidence.
Jamais. Sauf que je savais qu'elle avait deux bouts des cladobus qu'elle portait, oui, son mari qu'elle portait sur elle, et c'était tout. Mm-hmm. Et c'est à partir de ce chapitre qui s'ouvre, je suis la main, avec l'ambiguïté du verbe suis, je suis la main du carrier sur la hanche de Marie, vous voyez, c'est quelque chose qui personnellement me fait frémir, parce que j'ai l'impression d'un véritable viol. Et néanmoins, la tâche de l'écrivain est peut-être de caresser la hanche de cette
grande oncle. Donc, de violer le silence.
De violer le silence.
Ce qui me frappe d'ailleurs dans l'œuvre de Millet, c'est le rôle clé que joue la profanation. Il faut profaner ce qu'on aime, il faut profaner ce qu'on a de plus sacré. C'est d'ailleurs ce qui, à un moment magnifique, dans Ma vie parmi les ombres, où le narrateur humilie sa grand-mère, profane l'amour qu'il a pour elle. Sans doute parce qu'il parle d'un temps où il y avait du sacré et où on ne peut profaner que ce qui est sacré. Et je crois que ce geste-là, c'est d'une certaine façon. Alors, c'est le geste qui permet d'entrer dans l'âge adulte, de s'arracher à quelque chose. C'est aussi le geste peut-être qui permet de passer à la littérature. Mm-hmm. Il faut laisser l'obscur à l'obscur. Et en même temps, nous devons essayer de montrer cet obscur. On est vraiment coincé, en fait.
Ça, c'est notre tâche. Je reviens à ce reproche, ce grief que vous avez rencontré, Charmier, parler des paysans, c'est réactionnaire, c'est rétrograde. On a l'impression qu'il y a aussi un aspect. Alors, on profane ce qui est sacré et on provoque la doxa. Donc, il y a, on n'est plus à l'ère de la profanation, on est à l'ère de la provocation. Il y a un aspect de provocation dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez loin. Les ombres, ce n'est pas simplement la paysannerie, c'est la langue qui est en train de mourir, c'est la littérature aussi, et vous dites aussi, par exemple, que vous avez connu c'est aussi le monde qui disparaît avec la paysannerie. Vous avez connu les dernières messes en latin, les dernières cornettes, les dernières soutanes, et vous ajoutez aussi à la fin de votre livre que la littérature, elle a peut-être partillé avec, elle disparaît complètement des études, elle a partillé presque avec la chrétienté. L'histoire de roman est un chrétien qui s'ignore, et l'histoire de la littérature, telle que nous l'avons connue et telle qu'elle a été possible, s'achève sans doute avec la chrétienté, puisque nous sommes de moins en moins capables de déchiffrer les grands textes comme nos ancêtres, ces livres de pierre et de lumière, que sont les vitraux, les chapiteaux et les porches des églises.
Je pense, je ne veux pas l'articuler de façon plus théorique dans ce passage, mais je pense qu'avec Steiner, qui sont entrés dans une ère de l'épilogue, de post-humanisme, et que le monde qui nous a fait ce que nous sommes, pas seulement dans le pays, dans cette fois, le monde judéo-chrétien, est en train de devenir illisible. C'est tout. Comment regarder les états de Strasbourg avant-hier, je me disais, comment lire cette cathédrale? Moi, j'en suis un peu capable, mais qui, après moi, sera capable de lire cette cathédrale? Qui sera capable de comprendre la messe en feedback? Franchement, qui sera capable de lire la Bible? À partir du moment où la Bible est évacuée, comment lire toute l'histoire de la littérature occidentale? Elle est évacuée, tout ceci est évacué de l'enseignement, nous le savons. Nous avons déjà parlé de ça.
Oui, oui.
Donc, quelle littérature, au fond, est en train de naître? Est-ce que ça pourra encore s'appeler de la littérature? Je n'en sais rien. Quelle langue sera pour porter cette littérature? Ou quelle littérature pourra porter cette langue? Je ne sais pas.
Et pour vous, il y a un lien entre toutes ces disparitions. En tout cas, on ne relève pas de la coïncidence. Disparition simultanée de la culture et de l'agriculture, ce qui nous oblige d'ailleurs peut-être à penser à l'étymologie, complètement oubliée depuis, avec justement l'idée que paysan c'est réac et c'est pépin, coléré, vient de. C'est l'agriculture de l'âme, et c'était une métaphore vécue vers ce que c'est par Cicéron, l'un de ses initiateurs. Il dit ceci, un champ, si fertile qu'il soit, ne peut être productif sans culture, et c'est la même chose pour l'âme, sans enseignement, quand il est vrai que chacun des deux facteurs de la production est impuissant en l'absence de l'autre. Or, la culture de l'âme, c'est la philosophie. Culture des champs, culture de l'âme, disparaissant en même temps au profit, en effet, de la technique par rapport à la manipulation avec les choses, mais c'est aussi la chrétienté. Alors on a l'impression que c'est effectivement tout un monde qui bascule et pas simplement un pays qui disparaît.
J'en ai le sentiment. Et je ne veux pas entrer dans des généralités, mais je voudrais au contraire, si vous permettez, revenir sur quelque chose de très précis dont nous n'avons pas parlé encore. Nous avons eu le privilège atroce de voir aussi disparaître quelque chose qui est une langue. Non pas le français, mais ce qu'on appelait chez nous le patois, chez vous, j'imagine aussi.
Oui, mais qui est parlé tout à fait couramment, plus que le français.
Ah bon? À la différence de ces gens, chez moi, c'est fini. Donc, et c'est quand même la langue de Bernard Ventadour, vous voyez, des troubadours. Donc, quelque chose qui était... Nous étions capables d'entendre la poésie, ou des échos de la poésie, tout naturellement, de Bernard Ventadour. C'est fini. Donc, ça fait froid dans le dos, vous voyez. C'est quelque chose qui... J'ai eu ce privilège, au fond, de voir disparaître. Quoi. De voir s'éteindre.
Mais pourquoi, dites-vous, que ça fait froid dans le dos? Après tout... La langue française, dans ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est aussi constituée, un peu contre les patois. Elle s'est constituée. La France est unifiée autour de sa langue. Cette langue a brillé avec beaucoup d'éclat. La Troisième République a arraché les enfants des différents pays à leur dialecte. Elle l'a fait au travers de l'enseignement de la littérature, justement, et il n'y a pas là, simplement, que sujet à se plaindre. Ou est-ce que je me fais l'avocat du diable?
Non, c'est vrai que je ne partage pas tout à fait l'avis de Richard Millet sur ces questions-là. Les romantiques ont eu le sentiment, c'est encore plus fort que nous, d'avoir vécu la fin d'un monde, et d'entrer dans l'histoire très violemment, et d'être une génération perdue, et d'être vraiment la première génération du désenchantement, ça ne les a pas empêchés de faire œuvre, et quelle œuvre. Je crois qu'on a, ce travail est à faire, précisément, parce qu'on sont vivants, ce moment de rupture.
Et je suis pas d'accord avec vous, je disais simplement, il s'agit de mon clocher, simplement de mon village, à ceci. Bon. On ne disait pas la même chose dans le patois limousin qu'en français. Et ça, cette nuance, cette perte de nuance, est quelque chose, pour moi, un appauvrissement. C'est tout, je ne parle pas de la langue française, je ne suis pas non plus nostalgique, simplement, à partir du moment où vous vivez différemment ou en même temps, dans deux langues, je trouve que c'est une...
Cela dit, vous parlez aussi du destin de la langue française.
Bien sûr.
Dans plusieurs livres théoriques, mais aussi dans celui-là. Et alors là, qu'est-ce qui associe dans votre esprit, comment s'associe dans votre esprit ces deux disparitions? Parce que les disparitions du monde paysan et du patois, ça on comprend. Et du monde paysan et de la langue française, c'est moins évidemment... Claire.
Je ne dis pas qu'elle disparaît, je dis qu'elle est en train de se modifier de façon qui ne me convient peut-être pas tout à fait. Disons une articulation, une respiration du français qui est en train de se perdre et dont je glisse peut-être les derniers locuteurs à travers ce personnage de femme, non pas paysanne mais rurale, qui s'appelle Madame Malrieux, chez qui le narrateur va lire des livres, découvre la littérature à haute voix en lisant des livres chez elle. Et je suis... là aussi, si vous voulez, comme je parlais des initiés tout à l'heure, je pense que j'ai entendu peut-être les derniers échos de ce que pouvait être la langue française du 18e, vous voyez, véhiculée de façon non artificielle à travers la respiration littéraire du français. Bon, c'est quelque chose de très ténu, ça c'est un film, mais bon, bien sûr, la première phrase, d'après moi, la langue ne sera pas tout à fait la même, tout à fait provocatrice, dans la bien conscience, mais tout à fait faux, au fond. Est-ce que nous ne sommes pas, un certain nombre, les derniers, ou parmi les derniers, à utiliser le français dans toutes ses, avec toutes ses ressources?
Je ne sais pas. D'abord, vous en faites un usage, qui est original. Vos phrases sont très particulières. On pourrait dire que vous êtes un écrivain moderne, de ce point de vue-là, dans votre créativité. Donc, vous installez quelque chose qui s'inscrit dans cette histoire de la langue, dont je pense qu'elle a d'infinies ressources. Aussi bien par le travail des écrivains que dans des inventions populaires de la langue populaire qui me semble encore vivante. Je crois qu'on crée encore, on disait autrefois qu'il se créait beaucoup plus de tropes et de figures en une journée à la halle
qu'il y a encore un équivalent de la halle aujourd'hui, c'est les cités sensibles et les cités Nike, je crois, quelque chose comme la halle
dans certains cas, oui.
Quel malheur prendra exemple là-dessus.
Je pense qu'il y a un vrai appauvrissement incontestable de la parole et de la pensée, mais je crois aussi qu'il y a une vraie créativité d'expression.
Alors, cela étant, vous avez parlé, Pierre Jour, de la difficulté qui était la vôtre de violer le secret, et donc vous essayez tout à la fois de le respecter tout ensemble. Vous dites qu'il y a une obscénité de la parole, mais d'un autre côté, je me demande, ce qui ne motive pas l'écriture chez l'un et chez l'autre, si ce n'est pas l'incompréhension que vous rencontrez quand il peut vous arriver d'évoquer vos origines. Et j'y pense à propos d'un passage de Ma vie parmi les ombres, qui est vraiment assez dur pour les citadins dont je fais partie, parce que on vous a posé cette question. C'est idiot, mais je me suis dit que j'aurais posé moi aussi. Vous qui avez une origine rurale, j'aurais pas dit des choses comme ça, hein, mais bon. Préférez-vous les chevaux ou les vaches? Et alors, très très gentiment, vous avez dit j'aime les vaches et la viande de cheval. Bon. Et rien que pour les embêter, parce que vous ne pouvez pas supporter ces parisiennes qui ont à cœur de tout opposer, les chevaux aux vaches, le roman au gothique, Picasso à Matisse, Mahler à Bruckner, Balzac à Dickens pour les plus cultivés, et pour les autres, c'était la ville à la campagne, la marijuana à l'alcool, la bisexualité à l'hétérosexualité, la rivière bouddhiste à la mystique chrétienne, avec une préférence mondaine et idéologique pour les premières, puisque la haine, effectivement, le politiquement correct, c'est la haine toujours déclarée, reste ressassée, pour le christianisme dans lequel elles sont nées. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait d'être la littérature, ce décalage croissant avec les contemporains qui ne comprennent rien, ou dont vous pensez qu'ils ne comprennent rien à ce que vous êtes, à ce qui vous a fait, à la généalogie dont vous êtes parti.
Je crois qu'on est fait toujours à partir de ce qui est perdu, mais aussi dans une sorte d'intempestivité ou d'une actualité qui
par une sorte de révolution habile ou malhabile, peu importe, provocatrice, rejoint le présent.